si on compare ces deux textes et même celui de l'ancienne constitution, ce qui était en vigueur à l'époque de Moubarak et qui avait été fortement critiqué comme étant une constitution qui donnait trop de pouvoir au président, finalement, ces trois textes sont très proches les uns des autres. Et même celle de 2013, qu'on nous avait annoncée comme étant une constitution révolutionnaire qui serait le premier pas vers une véritable transition démocratique, ne fait que modifier certaines dispositions de la constitution de 2012, améliorant le chapitre qui porte sur les droits fondamentaux et les libertés publiques. Mais dans le reste des dispositions, il y a parfois même un retour en arrière par rapport au texte de 2012. Quand on regarde le texte de 2013, on retrouve quand même l'article 2 de la Constitution qui fait de l'islam la religion de l'État et des principes de la charia islamique la source principale de la législation. Donc on retrouve cet article qui datait même de l'époque de Moubarak. Au départ, ce comité des 50 voulait introduire dans la Constitution un article faisant de l'État égyptien un État civil. Or, il y a eu une telle opposition au sein de ce comité des 50, probablement des deux islamistes et des représentants d'Al-Azhar, qu'il a été trouvé un consensus tout à fait à la fin du processus d'élaboration pour mettre dans le préambule, effectivement, une référence au caractère civil du gouvernement égyptien et non pas de l'État égyptien. Et civil a effectivement un double sens en arabe, puisque ça peut à la fois signifier non religieux et non militaire. Or, cette constitution reste une constitution religieuse avec cet article 2 et elle reste une constitution qui donne un statut très privilégié à l'armée.
À vous entendre aujourd'hui en Égypte, on ne peut pas évacuer évidemment la dimension religieuse, mais aussi le poids de l'armée. Finalement, l'espace est infime entre et l'armée et l'islam.
Le général Sissi, qui a chassé Morsi du pouvoir, se présente quand même contre un État islamique, contre la fusion du politique et du religieux, mais lui-même est connu comme étant quelqu'un de très conservateur et de très religieux, mais dans le domaine privé. Pour la question de l'armée, effectivement, l'armée semble avoir fait pression sur le comité des 50. On ne sait pas exactement ce qui se passait, puisque ce comité des 50 se réunissait à huis clos, à la différence du comité de l'Assemblée constituante des frères musulmans, dont les sessions étaient retransmises en direct à la télévision. Plusieurs membres du comité des 50, au début, s'étaient prononcés contre le fait que des civils puissent être jugés par des tribunaux militaires, que le ministre de la Défense doive nécessairement être un militaire, un officier. Et à la fin, non seulement on garde ces dispositions, mais en plus, on donne le droit au Conseil suprême des forces armées pendant deux mandats présidentiels, c'est-à-dire pendant 8 ans, de mettre son veto à la nomination d'un nouveau ministre de la Défense. C'est-à-dire le nouveau ministre de la Défense ne pourra être nommé qu'avec l'aval du Conseil suprême des forces armées, ce qui n'était même pas dans la Constitution de l'an dernier.
Un mot sur les minorités religieuses, en particulier la minorité copte. Il est écrit que la liberté de croyance est désormais absolue dans la Constitution. Une autre disposition oblige le Parlement à adopter lors de sa première session une loi qui permet la construction et la restauration des églises. C'est une avancée, ce point-là?
Écoutez, le fait que la liberté de croyance soit désormais absolue et non plus seulement garantie, bien sûr, c'est un plus. Mais si on regarde la suite de cet article, il dit que les religions du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, auront le droit de pratiquer leur culte en public et de construire des lieux de culte conformément à la loi. Donc il faudra une loi qui vienne réglementer ce droit de construire des lieux de culte et d'exercer leur culte en public. Donc il faut que le Parlement effectivement légifère pour que ce droit soit garanti et le Parlement peut limiter ce droit. Et en plus, ce droit n'est réservé qu'aux seules religions du livre, aux chrétiens et aux juifs. Donc les non-musulmans qui ne sont ni juifs ni chrétiens ne bénéficient pas de cette liberté religieuse. Et effectivement, à la fin du texte constitutionnel, il existe une disposition transitoire tout à la fin qui invite le Parlement, lors de sa première session, à adopter une loi permettant aux chrétiens de réparer leurs églises et de construire de nouvelles églises. Parce que la législation en vigueur datait de l'époque ottomane et était extrêmement restrictive sur le droit des chrétiens d'entretenir leurs églises. Il fallait tout un tas d'autorisations qu'ils obtenaient au compte-gouttes. Donc effectivement, là, il y a une amélioration pour les chrétiens, mais c'est seulement pour les chrétiens.
Un mot, Nathalie Bernard-Maugiron, sur les droits publics. Cette constitution semble renforcer donc ces droits publics, les droits et les libertés. On voit pourtant au quotidien qu'on en est assez loin. On voit des arrestations nombreuses de manifestants, au nom d'ailleurs de cette nouvelle loi sur les manifestations qui a été votée il y a quelques semaines. Est-ce que là, on est n'est pas en pleine ambiguïté.
C'est tout le problème de la valeur juridique des constitutions. Les constitutions sont des textes qui énoncent de grands principes, mais ces principes ont besoin d'être mis en œuvre par des lois. En ce moment, il n'y a pas de parlement en Égypte, puisque l'ancien parlement avait été déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle. Donc, il n'y a pas de parlement. Et à l'heure actuelle, c'est le pouvoir exécutif, donc le président de la République, Ali Mansour, qui a été nommé par le général Sisi, qui exerce à la fois le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Et alors que le comité des 50 adoptait cette constitution qui garantit effectivement notamment la liberté de manifester, en même temps, le gouvernement élaborait un nouveau texte législatif sur la liberté de manifester qui restreint considérablement ce droit de manifester de façon encore plus restrictive que ne l'était la loi sous Moubarak. Donc on a un gouvernement un peu schizophrène qui d'un côté garantit la liberté de manifester dans la Constitution et qui au même moment limite cette même liberté de manifester par des lois et des lois qui sont immédiatement mises en œuvre par la police.
Cette Constitution doit donc être approuvée par référendum. On sait déjà que les frères musulmans ne participeront pas à ce référendum. Ils représentent quand même une partie non négligeable de la société égyptienne. On voit en détail finalement que l'appareil sécuritaire et la main de l'armée est toujours bien présente. Est-ce que tout cela ne mine-t-il pas la crédibilité de cette constitution dans une Égypte qui se cherche toujours et qui veut tourner la page?
C'est vrai que depuis le 3 juillet 2013, les frères sont totalement exclus du pouvoir. Ils n'ont pas participé à l'élaboration de la constituante et leur existence même en tant que parti politique est menacée puisque dans ce texte constitutionnel figure une disposition visant la constitution de parti politique à référence religieuse. Donc l'existence même du parti politique des frères musulmans est menacée. Et eux-mêmes continuent à ne pas reconnaître la légitimité de ce qu'ils considèrent comme un coup d'État militaire du 3 juillet. Donc ils appellent au boycott. Et l'enjeu principal maintenant pour le gouvernement en place, c'est de faire mieux que les frères musulmans dans leur référendum. Donc ils veulent absolument avoir un taux de participation plus fort que celui du référendum de 2012, qui était d'à peu près 33%, je crois. Donc ils veulent absolument avoir un taux de participation supérieur à 33% et avoir aussi un taux de oui supérieur à celui des frères qui étaient dans les 60%. Donc c'est le principal enjeu maintenant pour le gouvernement, c'est de s'assurer qu'ils feront mieux que les frères, tant au niveau du taux de participation qu'au niveau du oui à ce référendum.